VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mardi 5 février 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Tragique méprise au Mali où le maire d'une ville du Nord-Est a été tué par des soldats de l'armée gouvernementale.
14 civils ont été tués lundi dans une attaque des djihadistes dans le nord du Burkina Faso où s'ouvre aujourd'hui le sommet du G5 Sahel.
En Guinée, 19 personnes condamnées à des peines allant de 10 ans de prison à la perpétuité en rapport avec l'assassinat d'Aissatou Boiro, directrice nationale du Trésor public en 2012.
Venezuela, près de 20 pays européens ont reconnu hier l'opposant Juan Guaido comme président par intérim de ce pays d'Amérique latine.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le maire d'Anderambukan, dans le nord-est du Mali, a été tué hier par des militaires maliens qui ont ouvert le feu sur ce qu'ils ont qualifié de véhicule suspect à Ménaka, la principale ville de la région. Des détails avec Irénée Herman Umbo.
C'était aux environs de 5h20 du matin à Ménaka. Selon l'armée, un véhicule suspect en direction du dispositif militaire n'a pas obtempéré aux sommations. Le ministère de la Défense soutient que les militaires ont ouvert le feu sur le dit véhicule en raison de l'environnement sécuritaire marqué par des attaques kamikazes. Le maire d'Anderambukan, Ahmad Ahmed, et 3 autres personnes étaient à bord. Le maire a été mortellement atteint et les 3 autres blessés, déplore le ministère, faisant état de l'ouverture d'une enquête pour élucider, je cite, cette malheureuse circonstances, fin de citation. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Et depuis 2015, les attaques se sont étendues au centre et au sud du Mali et le phénomène déborde sur les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger.
Au Burkina, 14 civils ont été tués lundi à l'aube dans une attaque attribuée à des djihadistes dans le nord, selon un communiqué de l'armée. En riposte, l'armée a mené des raids dans 3 provinces du nord, au cours desquelles elle affirme avoir neutralisé 146 terroristes. Des détails avec Jean-Roger Bion.
L'attaque a eu lieu hier à Kéne, une localité située dans le nord du Burkina, dans la province du Yatenta, frontalière du Mali. Il s'agit d'une des plus graves enregistrées dans le pays qui subit une explosion de violence depuis plusieurs semaines. En riposte, l'armée a mené dans la journée des raids terrestres et aériens dans 3 provinces du nord, au cours desquelles elle a affirmé avoir tué 146 djihadistes, un bilan extrêmement élevé que l'AFP n'a pas pu confirmer de sources indépendantes. L'attaque de Kéne intervient à la veille du sommet des chefs d'État du G5 Sahel qui se tient aujourd'hui à Ouagadougou, une force qui peine à obtenir des résultats. Les forces de l'ordre burkinabé semblent, quant à elles, impuissantes à enrayer les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Cette dernière attaque porte à près de 300 morts, le bilan depuis 4 ans. Depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur 45, accordant des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile, de jour comme de nuit.
Les États-Unis ont offert hier au Niger un bâtiment abritant un centre de communication et de transmission militaire d'une valeur de 16,5 millions de dollars pour l'aider à lutter contre les groupes islamistes, notamment Boko Haram. Les États-Unis avaient déjà offert au Niger 2 avions de type Cessna C-208 pour surveiller son vaste territoire, ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes et de petits bateaux à moteur, a rappelé l'ambassadeur des États-Unis, Eric Whitaker.
En Guinée, un tribunal de Conakry a condamné hier 19 personnes à des peines allant de 10 ans de prison à la perpétuité pour leur implication dans l'assassinat en novembre 2012 de la directrice nationale du Trésor public, Aissatou Boiro. Saluée pour sa probité et son courage, Madame Boiro avait été à l'origine du démantèlement d'un réseau ayant tenté en mai 2012 de détourner plus d'1,5 million d'euros de la Banque centrale de la République de Guinée, impliquant plusieurs cadres de la Banque, du Trésor et du ministère des Finances.
Guinée toujours, au moins 17 personnes ont été tuées dans un éboulement sur un site aurifère dimanche soir dans le nord-est, selon la gendarmerie et un élu local. L'accident a eu lieu dans le village de Norasoba, à 35 km de la ville de Sigiri. Les éboulements sur des sites aurifères sont fréquents et souvent meurtriers en Guinée. Ces mineurs clandestins viennent, outre de la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Libéria et de la Côte d'Ivoire.
Vive controverse en Afrique du Sud à la suite d'une note diplomatique signée par 5 pays occidentaux sur la corruption. La chef de la diplomatie sud-africaine s'est entretenue lundi avec les diplomates signataires de la note. Précision de Yacouba Ouédraogo.
Le document, dont des extraits ont été publiés dimanche par le journal Sunday Times, avait dit que l'ambitieux plan d'investissement du président sud-africain Cyril Ramaphosa échouera si de vigoureuses mesures ne sont pas prises contre la corruption. Aucun investisseur ne s'aventurera en Afrique du Sud sans garantie sérieuse de ses investissements, souligne la note diplomatique. Celle-ci a été signée par les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Suisse, 5 pays représentant 75% des investissements étrangers en Afrique du Sud. Il faut dire que des scandales de corruption continuent de secouer le gouvernement sud-africain et l'ANC, le parti au pouvoir. Déplorant une rupture avec les usages diplomatiques, la chef de la diplomatie sud-africaine Lindiwe Sisulu s'est entretenue avec les signataires de la note. Les 5 diplomates occidentaux ont alors fait savoir que le document datait de 2018, qui n'avait pas été adressé au président Ramaphosa, mais qu'il visait plutôt à appuyer les demandes d'investissement de l'Afrique du Sud.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. L'opposant vénézuélien Juan Guaido a reçu lundi un important soutien international. 19 pays européens l'ont reconnu comme président par intérim. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Espagne en tête, 19 pays de l'Union européenne dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Portugal ont franchi le pas lundi au lendemain de l'expiration d'un ultimatum européen demandant au président Nicolas Maduro d'organiser une présidentielle anticipée. Ces soutiens dénoncés par la Russie, l'un des principaux alliés de M. Maduro, s'ajoutent à ceux des États-Unis, du Canada et d'une douzaine de pays d'Amérique latine, dont la Colombie et le Brésil frontaliers du Venezuela. C'est votre reconnaissance, celle des Vénézuéliens qui n'ont jamais cessé de lutter pour établir la démocratie, a réagi Juan Guaido, 35 ans, en remerciant ces pays. Washington s'est félicité de la décision des Européens et a invité tous les autres pays à en faire de même. En réaction, le Venezuela a annoncé qu'il allait réévaluer intégralement ses relations diplomatiques avec les pays européens, reconnaissant Juan Guaido, les accusant, je cite, de soutenir les plans putschistes en suivant le scénario des États-Unis qui ont reconnu M. Guaido dès le jour de son autoproclamation comme président.
Syrie, alors que les forces appuyées par les États-Unis resserrent l'étau autour des dernières poches de résistance du groupe État islamique dans ce pays, les djihadistes sont imperturbables, se préparant plutôt à déclarer la victoire et à reconquérir des territoires. Cette évaluation peu rassurante a été soumise par le commandement central américain au principal inspecteur général des efforts américains en Irak et en Syrie. Elle intervient un peu plus d'un mois après que le président Donald Trump a annoncé son intention de retirer 2000 militaires américains de la Syrie, déclarant terminer la lutte contre le groupe État islamique.
Par ailleurs, les États-Unis demandent à leurs partenaires de la coalition anti-djihadiste en Syrie de rapatrier et de juger leurs citoyens faits prisonniers pendant qu'ils se battaient aux côtés du groupe État islamique. Les FDS, menés par les Kurdes, détiennent quelques 900 combattants étrangers venus d'Europe et d'ailleurs au Moyen-Orient.
Des représentants du gouvernement yéménite et des rebelles houthis doivent se retrouver à partir d'aujourd'hui à Amman, sous l'égide de l'ONU, pour des discussions dites techniques sur un échange de prisonniers dont l'identification reste problématique, selon le CICR. L'échange qui devait concerner à l'origine jusqu'à 15 000 détenus au total faisait partie des mesures de confiance adoptées dans le cadre d'un accord conclu avant les pourparlers de paix tenus en décembre en Suède.
Le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, le cheikh Ahmed Al-Tayeb, ont condamné ensemble lundi toute discrimination contre les minorités religieuses et appelé à la fraternité, et ce au deuxième jour d'une visite historique du souverain pontife dans une péninsule arabique minée par les conflits et les inégalités. Premier chef de l'Église catholique à fouler le sol de cette région qui fut le berceau de l'islam, le pape argentin a prononcé son seul discours du jour devant un parterre international de dignitaires religieux, chrétiens, musulmans et juifs, réunis à Abu Dhabi, dans la capitale des Émirats arabes unis. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le FMI a annoncé le déblocage d'une nouvelle tranche de prêt de quelque 2 milliards de dollars en faveur de l'Égypte à l'issue d'un nouvel examen de son programme de réforme économique. Au total, l'institution a procédé au paiement d'environ 10 milliards de dollars depuis novembre 2016, lorsque les autorités égyptiennes avaient obtenu un plan de soutien de 12 milliards de dollars de la part de l'institution de Washington. La Zambie est déterminée à appliquer un nouveau droit d'importation de 5% de cuivre afin de conserver une plus grande partie des bénéfices tirés de ses ressources minérales et de réduire sa dette, suivant une déclaration de son ministère des Mines. Le pays reste ouvert au dialogue avec les mineurs internationaux. Toutefois, ceux-ci sont appelés à développer leurs licences et à employer le personnel local dans le but d'améliorer la performance économique zambienne. Terminons avec deux sociétés étatiques de la Chine qui ont annoncé avoir passé chacune une commande pour 1 million de tonnes de soja américain dans l'objectif de faciliter les tractations commerciales entre les deux pays. L'enjeu est crucial pour les cultivateurs américains. Les États-Unis exportent souvent pour un montant de 14 milliards de dollars, environ un tiers de leur production de soja vers la Chine, où il sert surtout à nourrir les élevages de porc.
À présent, les sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Burkina Faso a trébuché à la CAN des moins de 20 ans.
Oui, initialement programmé dimanche, mais reporté à hier lundi, en raison d'un problème d'éclairage au stade de Maradi, le deuxième match du groupe B a enfin eu lieu entre le Burkina Faso et le Ghana, avec une victoire des Black Satellites à la clé 2-0. Auteur d'un doublé à la 41e et à la 77e, Daniel Lomoti a été le grand artisan de ce succès qui permet aux Ghanéens de rejoindre le Sénégal, tombé du Mali 2-0 dimanche, en tête avec 3 points.
Le coach du club africain a démissionné.
Tchied Elili n'a pas survécu à l'historique défaite du club africain 0-8 devant le TP Mazembe lors de la troisième journée de la phase de groupe en Ligue des Champions. Dimanche, le technicien tunisien a démissionné de son poste. Il était à la tête de l'équipe depuis 4 mois. Samedi, après le match, le président du club africain Abdesalam Younsi annonçait une révision technique et administrative au sein du club. Le score de 8-0 de TP Mazembe face au club africain est un record qui n'a jamais été enregistré dans un match de groupe en Ligue des Champions.
Au Maroc, le derby de Casa aura lieu hors du pays.
Oui, suite à une convention signée avec son homologue des Émirats Arabes Unis, la Fédération Royale Marocaine de Football a donné son accord pour l'organisation d'un derby de Casablanca entre le Raja et le Wydad à Abu Dhabi le 21 mars prochain en amical. Le partenariat prévoit aussi une collaboration technique et l'organisation chaque année d'une supercoupe entre le champion du Maroc et celui des Émirats Arabes Unis.
Moussa Bilitti démissionne des instances de la CAF.
Oui, l'ancien président de la Fédération libérienne de football a annoncé sa démission du comité d'urgence et de son poste de président de la commission d'organisation du CHAN, entendez championnat d'Afrique des Nations. Dans sa lettre de démission qui a fuité, Moussa Bilitti s'en prend à Ahmad, président de la CAF qui l'accuse, je cite, d'abus de pouvoir et d'autoritarisme. Chaque décision du président de la CAF doit être approuvée par le comité exécutif. Or, ce n'est clairement pas le cas actuellement, a écrit M. Bilitti. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Détroit et Denver, 129-103. Atlanta et Washington, 137-129. Milwaukee et Brooklyn, 113-94. Indiana et la Nouvelle-Orléans, 109-107. Houston et Phoenix, 118-110.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ouagadougou abrite ce mardi le sommet du G5 Sahel qui regroupe le Mali, la Mauritanie, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. Les chefs d'État réunis dans la capitale burkinabé doivent discuter des moyens de redynamiser la force antiterroriste sous-régionale qui peine depuis 2 ans à être vraiment opérationnelle. Que peut-on retenir des 2 ans d'existence du G5 Sahel? Au micro de Bagassi Koura, le journaliste burkinabé Abdoulaye Barry.
C'est difficile à établir concrètement, mais ce qu'on peut retenir, c'est que le G5 Sahel a le mérite d'exister dans l'architecture institutionnelle régionale et il traduit une certaine prise de conscience de nos dirigeants par rapport à la menace et de la nécessité surtout de mutualiser les forces pour faire face à la menace. Il y a aussi la tentative de mise en place de la force conjointe du G5 Sahel qui devrait être composée de 5 bataillons. Chaque pays membre devra fournir un bataillon, c'est-à-dire 750 hommes. Il y a eu la mise en place aussi du poste de commandement opérationnel en septembre 2017, mais qui malheureusement a été détruit en juin 2018, complètement détruit par une attaque terroriste. Et aujourd'hui, ce poste est SDF et en attente de la construction d'un nouveau siège à Bamako. Voilà les points positifs. Mais au-delà de ça, concrètement, sur le terrain, on remarque aujourd'hui la difficulté des dirigeants à mobiliser les ressources promises par les bailleurs de fonds, notamment les 400 millions d'euros nécessaires au financement de cette force conjointe. Le deuxième élément, c'est que concrètement, sur le terrain, la situation s'est envenimée et l'insécurité a pris des proportions aujourd'hui inquiétantes au point qu'il ne se passe plus désormais un seul jour dans la région sans qu'il y ait une attaque terroriste, sans qu'il y ait des morts. Et quand on prend par exemple le cas du Mali, dans le centre, on voit la résurgence des conflits intercommunautaires. Or, le G5 Sahel est censé être basé à Sévaré. Au Burkina, en 2014, lorsqu'on a voulu mettre en place le G5 Sahel, le Burkina Faso n'avait pas connu une seule attaque terroriste. Aujourd'hui, il ne se passe plus pratiquement une semaine sans qu'il y ait une attaque terroriste au Burkina Faso. Donc, concrètement, sur le terrain, la force du G5 Sahel a du mal à être opérationnelle. Et la première opération conjointe qu'ils avaient menée en novembre 2017 entre le Mali, le Niger et le Burkina a montré à la fin qu'il y avait un problème sérieux de coordination et de moyens de communication entre les différents éléments qui avaient été envoyés sur le terrain.
Alors, les chefs d'État se réunissent aujourd'hui donc pour débattre de cette force-là. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour redynamiser le G5 Sahel?
Moi, je pense qu'il faut que d'abord les Africains sortent de ces schémas classiques qui nous enlisent pour prendre en charge en toute responsabilité la question de la sécurité parce que c'est une question de souveraineté nationale. Et cela suppose aujourd'hui une véritable refondation de notre système de défense nationale. Le problème n'est pas un problème d'hommes ni d'équipement parce que on a quand même des armées qui, en moyenne par pays, on peut retrouver près de 20 000 hommes en moyenne par pays, qui ne sont pas complètement non équipés comme on veut nous faire croire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut investir davantage dans le moral des troupes combattantes en revoyant nécessairement les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des soldats, en impliquant les populations au niveau local, en priorisant aussi les recrutements au niveau local, parce que ces gens ont le mérite de connaître le terrain et de maîtriser les codes sociaux. Aussi bien la gouvernance de l'armée que la gouvernance politique, ça doit être des gouvernances vertueuses pour que le militaire qui est au front puisse savoir que lui, il doit mourir pour sa patrie, parce que tout le monde peut être militaire, mais aujourd'hui, il nous faut construire des armées où on a des vrais soldats qui prennent conscience qu'être un soldat, c'est un engagement pour la vie au service de la patrie. Et puis, le dernier élément, tant qu'on n'arrivera pas à résoudre la question de la Libye, où chaque groupe se dispute une portion de terre, on ne pourra pas efficacement résoudre la question de la sécurité dans la région.
Joint à Ouagadougou, le journaliste burkinabé Abdoulaye Barry.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Sénégal, notre correspondant à Dakar, continue de nous présenter les candidats à la présidentielle du 24 février. Après El Hadj Sall hier, il nous brosse aujourd'hui le portrait de Maître Madi Kenyang. Avocat et homme politique sénégalais, Madike Niang est le candidat le plus inattendu de cette présidentielle sénégalaise. Longtemps dans l'ombre de l'ancien président Abdoulaye Wade, ce natif de Saint-Louis du Sénégal a décidé de briguer le suffrage des Sénégalais pour pallier l'invalidation de la candidature de Karim Wade, fils de l'ancien chef de l'État sénégalais Abdoulaye Wade. Nous dit Sedina Abagay.
Madike Niang est né le 25 septembre 1953 à Saint-Louis. C'est dans cette région qu'il suit sa scolarité au lycée Charles de Gaulle jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Ensuite, il fréquente la faculté de droit de l'université de Dakar avant de faire cap sur Abidjan. À la fin de ses études, il s'inscrit au barreau de Dakar et compte parmi ses clients de grandes entreprises telles que la compagnie sucrière sénégalaise. Rapidement, il devient un proche d'Abdoulaye Wade et finit par être son avocat.
Abdoulaye Wade a été arrêté en 1985. C'est lors de la marche avant. De la déstabilisation a été arrêté ainsi que tant d'autres. Ce jour-là, j'ai décidé de les défendre.
En 2000, Abdoulaye Wade accède au pouvoir et place Madike Niang à ses côtés. Sous le premier mandat de Wade, il est ministre de l'Habitat de 2002 à 2003, ministre de l'Énergie et des Mines de 2003 à 2006, puis ministre des Mines et de l'Industrie entre 2006 et 2007. En 2007, justement, Wade est réélu et Madike Niang monte en grade. De ministre, il passe à ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice de 2007 à 2009, puis ministre d'État, ministre des Affaires étrangères d'octobre 2009 à avril 2012. À la chute du régime libéral, il accueille Wade dans sa villa située au point E, quartier résidentiel de Dakar. La relation idyllique entre Abdoulaye Wade et Madike Niang va prendre une tournure brusque et inattendue. Craignant l'invalidation de la candidature de Karim Wade, Madike Niang prend son courage à deux mains et dépose sa candidature pour la présidentielle de 2019, tout en continuant de revendiquer son appartenance au Parti démocratique sénégalais.
J'ai satisfait aux conditions qui concernent le parrainage et qui concernent tant d'autres questions. Karim a eu à franchir le premier cap. L'avenir appartient aux tout puissants et je suis un homme d'honneur. Quand une déclaration est faite, je ferai tout pour la respecter.
Wade estime que son avocat et compagnon l'a trahi en déposant une candidature parallèle à celle de son fils Karim. Le 12 octobre, l'ancien président déménage de chez Madike Niang, un acte fort qui sonne comme le divorce entre les deux hommes politiques. Aujourd'hui, Madike Niang fait partie des 5 candidats en lice pour la présidentielle de 2019. Une présidentielle qu'il aborde dans la peau d'un candidat inattendu et qu'on accuse souvent de connivence avec le pouvoir, comme l'indique l'observateur politique Ibrahima Bahoum.
Personne ne l'attendait ou peu de gens l'attendaient. Et la première chose qu'il réussit, c'est de passer le parrainage. Évidemment, tout de suite, les soupçons commencent à peser. Est-ce qu'il n'est pas un élément avancé du système de Macky Sall pour affaiblir le PDS là-bas? Mais Madike, son engagement, c'est qu'il n'est pas question que le PDS n'ait pas de candidat. Alors, puisqu'il tient à ce que le PDS ait un candidat, il veut se présenter comme le candidat du PDS, autrement dit celui qui va sauver la maison bleue, comme on dit ici.
Malgré tout, le candidat de la coalition Madike 2019 espère polariser le vote des libéraux de tous bords pour accéder à la magistrature suprême au soir du 24 février 2019. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Tchad, les augmentations générales spécifiques de 15% accordées aux fonctionnaires ne font pas l'unanimité. Le gouvernement s'est servi de la coupe de salaire entrée en vigueur en janvier 2019. Réaction des travailleurs et responsables syndicaux dans ce reportage d'André Kotmadjingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Les fonctionnaires frappés financièrement par les mesures d'austérité du gouvernement se disent une fois de plus avoir été roulés dans la farine. Les 15% sur la coupe des AGS, les augmentations générales spécifiques entrées en vigueur ce mois de janvier 2019, ramenant ainsi les AGS à 65% conformément à l'accord signé le 26 octobre 2018 entre le gouvernement et partenaires sociaux, ne change pas grand-chose dans le panier de la ménagère. Quelques fonctionnaires expriment au micro de VOA Afrique leur déception.
Moi, quand vous prononcez AGS, là, j'ai la migraine. Moi, je comprends rien dans tout ce qui se passe. Je sais que j'ai plus de 200 000 en l'air et ça m'énerve même.
Recensement par-ci, abattement par-là, 16 mesures par-ci et on ne s'en sort pas.
De toutes les manières, nous savions que ça ne donnait pas grand-chose, mais il faut faire avec, c'est ça.
Les 15%, nous, on pensait voir le salaire un peu rehaussé, mais dommage, c'est une déception.
Pour Younous Mahadir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad et membre du comité paritaire gouvernement et syndicats pour l'assainissement des fichiers de la solde, les fonctionnaires ont raison de se plaindre.
C'est tout à fait normal que que les fonctionnaires disent que c'est insignifiant. Effectivement, c'est entre 10 000, peut-être même moins, 15 000, pas plus que ça.
Les agents sont en sorte les salaires. C'est pas des indemnités. C'est inclus dans les salaires. Mais ils nous ont imposé pour qu'on puisse avaler cela. Donc nous savons bien que ceci est une coercition qui nous empêche effectivement de satisfaire bien les intérêts des travailleurs.
Younous Mahadir estime que les 15% des AGS et la mise en place du comité paritaire est un premier pas gagné par les travailleurs. Toutefois, il est pessimiste quant à l'application des recommandations qui seront déposées par le comité.
Déby a toujours été réticent. Il avait même dit qu'il n'augmenterait pas d'un seul sou. Il allait même réduire. Déjà, lorsqu'il a introduit dans le budget, nous avons constaté qu'il était obligé de le faire appliquer parce qu'il n'a pas d'autre choix. Nous nous attendons à la grande inconnue. C'est plutôt la commission qui va maintenant essayer de fouiner dans les textes de finances, salaire des personnels, des services publics et également dans les diplômes. Nous allons voir lorsque nous allons donner nos résolutions, nos conclusions avec les recommandations, est-ce qu'il va les faire appliquer. Mais c'est ce jour-là que je dirais que Déby a appliqué une fois les recommandations que la plateforme lui a proposées.
Après deux jours de travail, le comité paritaire pour l'assainissement des fichiers de la solde a suspendu ses activités suite à un malentendu entre les membres de l'équipe alors que le comité a 45 jours pour finaliser le travail. La plateforme syndicale menace de claquer la porte si le gouvernement ne règle pas la situation dans un délai d'une semaine. André Kodmatingar Ndjamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Ici à Washington, le président Donald Trump va prononcer ce soir son traditionnel discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres réunies du Congrès. Ce discours annuel du chef de l'exécutif américain devait se tenir il y a une semaine, mais avait dû être reporté à cause de la fermeture partielle du gouvernement fédéral, faute d'accord sur le budget. D'ailleurs, un autre shutdown n'est pas exclu si un accord n'est pas trouvé d'ici au 15 février. Reportage de Michael Brown, repris ici par Abdourahmane Dia.
Cela faisait 9 ans que le président de la Chambre, Nancy Pelosi, n'avait plus présidé un discours sur l'état de l'Union, alors qu'elle était enthousiaste en écoutant l'ancien président Barack Obama dérouler son programme pour l'année 2010. Elle a déjà annoncé la couleur pour ce qui est du discours de Donald Trump ce mardi.
Il n'est pas prévu d'argent dans la loi pour le mur.
Donald Trump, lui aussi, reste droit dans ses bottes. Il continue d'exiger son mur à la frontière avec le Mexique.
S'il n'y a pas de mur, ça ne marchera pas. Elle joue. S'il n'y a pas de mur, ça ne marchera pas. Et nous construisons le mur en ce moment.
Un comité bipartite du Sénat et de la Chambre a moins de 2 semaines pour concocter une proposition sur la sécurité à la frontière qui ferait partie du budget devant être approuvée avant le 15 février pour éviter une autre fermeture du gouvernement. Ben Cardin est sénateur démocrate.
Le shutdown de Trump était révélateur. Après 35 jours, beaucoup d'Américains comprennent mieux le dur travail qu'abattent nos employés fédéraux pour soutenir notre économie, notre sécurité, la santé publique et la vie de tous les jours.
Mitch McConnell, le patron républicain du Sénat, estime qu'il faut éviter un autre shutdown à tout prix.
Je soutiens tout ce qui marche, ce qui veut dire qu'il faut éviter un shutdown, qu'il faut éviter que le président ne sente le besoin de déclarer l'état d'urgence. La manière d'y arriver, comme vous le savez, a été un défi.
Mais il n'y a pas que le mur et l'immigration qui vont occuper les débats au Congrès lors du discours sur l'état de l'Union. Le président devrait s'expliquer sur sa décision de se retirer de la Syrie, arguant que le groupe État islamique a été vaincu. Mais cette assertion a été contredite par le directeur de l'Agence nationale des renseignements, Dan Coats, devant le Congrès. Le président pourra aussi mettre en exergue les bons résultats de l'économie américaine. 300 000 nouveaux emplois ont été créés en janvier, dépassant les prévisions. Le taux de chômage, lui, reste à 4 %.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel.
Le monde au féminin.
Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous.
Le monde au féminin.
Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.